Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin.
En préambule, je voudrais souligner que nous venons de franchir un cap dans la recherche sur les archives mésopotamiennes du deuxième millénaire. La version 2 du site Archibab est désormais en ligne. Pour ceux d'entre vous qui utilisaient déjà cette base de données, les habitudes vont changer, mais vous verrez très vite, c'est pour le meilleur. On aura l'occasion de présenter ces changements dans un autre cadre, mais je ne pouvais pas ne pas mentionner cet événement en commençant ce cours, et je tiens à remercier publiquement Christian Gobert et Antoine Jacquet pour leur engagement sans faille dans ce projet qui leur a coûté 2 années de travail. Nous avons esquissé la semaine dernière le portrait de Zimri-Lim. Nous avons pu établir qu'il était très vraisemblablement le petit-fils du roi de Marie Yardounlim, ayant eu comme père un certain Radniadou. Nous avons vu comment, suite à l'expulsion de Yasmaradou, le fils de Samsiadou, Zimri-Lim monta sur le trône en 1774, rendant son indépendance au royaume de Marie, et nous avons retracé les grands traits de son règne de 13 ans. Pour le cours d'aujourd'hui, j'avais annoncé comme titre « La famille royale », mais chemin faisant, je me suis rendu compte que la matière était trop riche pour un exposé d'une heure, et j'ai donc décidé de ne parler aujourd'hui ni des sœurs de Zimri-Lim, ni de ses filles. Nous allons donc d'abord examiner l'ensemble des femmes qui vivaient au sein du palais, dans un espace clos qu'on peut qualifier de harem. Nous passerons ensuite au cas de Adoudouri, qui était, comme nous l'avons vu, la mère de Zimri-Lim, et nous terminerons par le portrait de Chiptou, la mieux connue des épouses de Zimri-Lim. Vous verrez, chemin faisant, à quel point le cours d'aujourd'hui est redevable aux travaux de Nelle Ziegler, qui en plus a eu la gentillesse de me fournir une partie des diapositives que j'utiliserai dans ce cours. Nous allons commencer par voir quelles sont les sources relatives à la vie des femmes dans le harem et quelle a été l'histoire de leur publication. Et d'abord, la correspondance. 6 lettres de femmes avaient été publiées par Charles-François Jean dans le tome 2 des Archives royales de Marie, qui réunissait des lettres diverses. Les copies parurent en 1941, l'édition des textes en 1950. Il s'agissait de lettres de la mère de Zimri-Lim à Doudouri, de son épouse Chiptou, de 2 de ses filles Inibshari et Shimatoum, et enfin de Belet Matim. En juillet 1948, lors du 21e congrès international des orientalistes qui se tenait à Paris, avant que les rencontres assyriologiques ne débutent, Georges Dossin annonça qu'il préparait un volume dédié à la correspondance féminine, mais il fallut attendre longtemps pour que cette promesse se réalise. Le volume de copies fut publié en 1967, mais le volume jumeau, si je puis dire, qui contient l'édition de ces lettres, tarda à paraître, et il faut dire que en 1968, Georges Dossin, qui avait alors 72 ans, eut un gros problème de santé qui le laissa diminuer. Et il reçut alors l'aide de son ancien élève, devenu son collègue, André Finet, et le volume ARM-10, contenant les transcriptions et traductions des lettres, parut en 1978. Mais entre-temps, un assyriologue néerlandais, élève de Van Zoden à Münster, Willem Römer, avait publié sa propre édition de ses lettres, ce qui fut très mal vécu par Dossin et ses collègues, qui avaient eu le sentiment d'une sorte de concurrence déloyale, comme on peut l'imaginer. Le terme de correspondance féminine, choisi par Dossin pour son recueil, était volontairement, je pense, quelque peu ambigu, puisqu'il englobe à la fois les lettres écrites par des femmes et les lettres écrites à des femmes. Aux 176 textes de ARM-10, il faut en ajouter d'autres, publiés de manière dispersée. On arrive, sauf erreur, au chiffre de 202, c'est-à-dire à peu près 7% du total de la correspondance actuellement publiée. Pas moins de 10 femmes reçurent un total de 58 lettres, de une à 23 chacune, tandis que plus de 35 femmes expédièrent un total de 144 lettres, de 1 à 29 chacune. C'est en bonne partie la correspondance féminine qui fournit des exemples de prophéties ou de rêves, et c'est à ce titre qu'elle est devenue fameuse, donnant lieu à une bibliographie considérable, en commençant dès 1969 par un remarquable article de Bill Moran. À côté de ces dizaines de lettres, la documentation administrative a été longtemps négligée. Il faut dire que les grandes listes de rations n'étaient a priori guère attirantes, sinon pour les amateurs d'onomastique. Maurice Birot fit œuvre de pionnier en en publiant deux. Il s'agissait de listes de rations d'huile provenant de la salle 79 et datées de l'année de la prise de Karat, qu'on sait maintenant remonter à la fin de la première année du règne de Zimri-Lim. La première tablette, reconstituée à partir de deux fragments, A et B, concernait des soldats. La seconde, dite tablette C, rééditée comme FM4-3, concernait des femmes. Et le commentaire de Birot se limita à l'essentiel, je cite, « On voit que la tablette C nous donne un aperçu intéressant du nombreux personnel féminin rétribué par le palais de Marie, depuis les plus humbles servantes au taux de 7,5 sous, c'est-à-dire des cycles, dont le scribe a négligé de préciser les fonctions, jusqu'aux princesses, dont le seul titre justifie le droit à la pichatum, la ration d'huile, en passant par des chambrières, les femmes affectées aux cuisines royales, les porteuses d'eau, les intendantes, les secrétaires et surtout les 70 chanteuses de toutes catégories qui charment les loisirs du souverain. » Et dans la suite de son étude, Maurice Birot s'intéressa surtout à l'analyse de la riche onomastique féminine livrée par ses documents. En 1982, Jean Margueron reprit la fouille de la salle 116 du palais et pour atteindre les couches archéologiques plus anciennes, il fit démonter la banquette qui avait servi de support à de grandes jarres. Et là, surprise, à l'intérieur de cette banquette, on a découvert pas moins de 67 tablettes, toutes datées du temps de Yasmaradou. On a donc ici affaire à une réfection datant du règne de Zimri-Lim, des documents périmés étant réutilisés comme matériaux de construction. À côté de 59 petits billets que j'ai publiés dans Marie III et Marie V, il y avait six grandes listes de distribution d'huile aux divinités et aux principales femmes du palais, deux autres ayant été retrouvées en 1984. Elle complétait un lot de 14 autres tablettes analogues découvertes avant la guerre par Parot dans la salle 108. Et du coup, Jean-Marie Durand a pu dresser en 1985 un tableau des femmes dans le palais de Marie à l'époque de Yasmaradou. Mais les matériaux du même genre étaient encore plus nombreux pour le règne de Zimri-Lim et il en confia l'étude à Nelle Ziegler qui en tira un livre véritablement magnifique paru en 1999 comme tome 4 de la série Florilegium Marianum et donc je citerai souvent ce volume comme FM4 avec son sigle. Et à partir d'une édition et d'une analyse minutieuse de textes très laconiques, je l'ai déjà dit, liste de rations mensuelles d'huile, mais aussi de laine, elle est parvenue à reconstituer de manière très vivante toute la vie grouillante qui se déroulait derrière les épaisses murailles du palais. J'ajoute que ce livre est désormais épuisé, mais vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site de la CEPORA. L'adresse figure à l'écran. Un aspect important de ce dossier consistait à déterminer quel espace ces femmes occupaient à l'intérieur du palais. Une analyse combinée des données archéologiques et textuelles, publiée par Jean-Marie Durand et Jean Margueron en 1980, a donné des résultats très intéressants. Dans sa thèse, Margueron avait isolé, au nord de ce qu'il avait défini comme la maison du roi, un ensemble qu'il appelait la seconde maison. Or, c'est dans cet espace que furent découverts des documents très importants concernant certaines femmes. Jean-Marie Durand a par exemple souligné que dans les salles 51 et 52 avaient été retrouvées des lettres de Zimri-Lim à son épouse Chiptou, ou encore c'est dans la salle 40 que l'on a retrouvé les dépenses pour la table de la reine comportant le sceau de Chiptou. La seconde maison était donc manifestement l'endroit où se trouvaient la reine et les nombreuses autres femmes qui résidaient dans le palais. Les courants féministes, notamment américains, ont critiqué l'emploi du terme de « harem » s'agissant de la Mésopotamie ancienne. Il est vrai qu'un certain orientalisme a nourri beaucoup de fantasmes, notamment au XIXe siècle. Dans un article de 1990, John Westenholz avait insisté sur le fait que beaucoup de réalités des harems dans le monde musulman ne se retrouvaient pas dans le monde mésopotamien, et elle avait raison sur un certain nombre de points. Cependant, l'étude des listes de rations par Nelle Ziegler lui a permis de montrer qu'il y avait, dans le palais de Marie, un espace réservé aux femmes, dont l'accès était contrôlé à l'extérieur par des gardes et à l'intérieur par des gardiennes. Quel mot français employer dès lors pour décrire un tel espace ? C'est bien celui de harem qui s'impose, avec son sens étymologique en arabe d'espace interdit d'accès. Et après, bien entendu, dans le cadre du comparatisme, il faut montrer en quoi ces harems mésopotamiens sont semblables ou diffèrent d'autres réalités qu'on peut trouver, et pas seulement dans le monde musulman. Un texte montre que l'entrée du palais était fermée non seulement pendant la nuit, mais également à l'heure de la sieste. C'est une lettre qui date de l'époque de Yasmaradou, mais je ne résiste pas à la nécessité et au plaisir de vous le lire. C'est un des plus beaux textes de Marie qu'il m'ait été donné de publier. Je cite « La nourrice de la reine, qui est venue de Katna, vu que, depuis que la reine est petite, cette femme l'a éduquée et qu'elle connaît ses habitudes, sans doute aurait-il fallu la mettre à l'écart lors du départ de la reine depuis Katna. » J'ouvre ici une parenthèse. Lorsqu'une princesse était donnée en mariage à l'étranger, elle était généralement accompagnée par la nourrice qui avait continué à s'occuper d'elle au-delà de son enfance. Je reprends la lecture. « Or, on nous l'a envoyée à Marie avec Beltoum, donc la reine épouse de Yasmaradou. Mais cette femme ne connaît rien des usages du palais de Marie. À cause de la femme peu sûre qui se tient au service personnel de ma reine, à l'heure de la sieste, lorsque les verrous du palais sont fermés, elle, c'est-à-dire la reine, lui a fait sortir les chanteuses vers la chapelle d'Ishtar pour la cérémonie Shurarum. Dans la cour du Bit Birmi, le bâtiment aux peintures, une insolation l'a frappée, elle est malade depuis ce jour-là. » Alors on peut parfaitement cartographier l'anecdote. La jeune reine a décidé de quitter le harem en passant au nord de la salle 115, et elle est entrée avec ses compagnes dans la grande cour 131, sur laquelle donne la salle 132, ornée de peintures, et donc qui s'appelle le Bit Birmi, le bâtiment aux peintures. Et ce Bit Birmi a pu être identifié comme étant la chapelle vouée à la déesse Ishtar. Mais en dehors des périodes où les verrous du palais étaient fermés, les femmes devaient rester confinées dans le harem. Jean-Marie Duras a cependant été frappé par deux phénomènes, le nombre croissant de femmes, d'une part, et d'autre part, l'exiguïté de l'espace qui leur était réservé, même en tenant compte de l'étage restitué par Jean Margueron. Or, les listes de rations s'arrêtent au début de l'an 6, et Jean-Marie Durand a donc supposé que, par la suite, les femmes auraient déménagé dans un autre lieu. C'est possible, mais il faut bien dire que nous n'avons aucun indice positif à ce sujet, et la concentration des listes dans la première moitié du règne pourrait être due au fait qu'à un moment donné, un tri a été fait dans les archives et que Parot serait précisément tombé sur les tablettes mises au rebut, les tablettes plus récentes n'ayant pas été retrouvées. Les femmes du harem du temps de Zimrilim sont avant tout connues par des listes de rations mensuelles d'huile et de laine qui sont toutes structurées de la même manière. On trouve en tête un certain nombre de divinités, on a ensuite les membres de la famille royale, puis viennent les musiciennes, des femmes qualifiées de sekertum, d'autres qualifiées de kesertum. On a ensuite différents groupes de servantes, le personnel des cuisines, les gardiennes, les puiseuses d'eau et enfin les gardiens. Je voudrais donner quelques détails sur certaines de ces catégories. Et d'abord, la section relative à la famille royale. Le seul texte qui mentionne Adoudouri, FM 4.1, commence par elle, et donc nous avons vu qu'il s'agit de la mère du roi. La princesse Inibshina, fille de Yardounlim et prêtresse du dieu Adou, ouvre les autres listes. Suivent les noms de princesses, qui semblent être toutes des filles de Zimrilim, et ensuite seulement ses épouses. Il y a là un élément un peu troublant. Les princesses ont en effet des rations moins élevées que les épouses, mais elles les précèdent, comme si le fait d'être du même sang que le roi leur donnait une certaine préséance. Ces princesses vivaient dans le harem jusqu'au moment où elles étaient données en mariage, soit à des rois étrangers, soit à des dignitaires, et j'ajouterais, soit à des divinités, puisque les prêtresses étaient généralement considérées comme épouses du dieu. Pour ce qui est des épouses de Zimrilim, dans un premier temps, arrivait en tête Dame Khouratsi, ça n'est que dans la liste numéro 13 qu'apparaît Shiptou à sa suite. Je ne dirai qu'un mot de Dame Khouratsi, dont les lettres sont d'une platitude complète. Jean-Marie Durand a proposé qu'elle soit identique à la princesse originaire de Katna, qui avait été donnée en mariage à Yasmaradou, celle qui a été frappée d'insolation dans le texte que je vous ai lu tout à l'heure. En quittant le palais, Yasmaradou n'aurait pas pu l'emmener avec lui, et selon la coutume de l'époque, le roi vainqueur l'aurait prise dans son harem. Il n'y a cependant pas de certitude absolue à ce sujet, et un très bon connaisseur des archives de Marie, comme Jack Sasson, a proposé que l'épouse de Yasmaradou ait été renvoyée à Katna, ou bien qu'elle soit devenue une prêtresse. S'il a raison, alors les origines de Dame Khouratsi restent à trouver. Outre Dame Khouratsi et Shiptou, Zimrilim eut des épouses secondaires. Un texte énumère sept épouses qualifiées de Kallatoum, qui sont clairement ses épouses secondaires, et qui sont suivies par 15 femmes qualifiées de servantes du roi, en qui on peut voir de simples concubines. Les enfants que ces concubines donnaient au roi n'avaient pas droit au trône, ils devenaient des Kirisakoum, un terme dont Nello Ziegler a montré récemment qu'il désignait des eunuques. Mais il ne sera pas dit que je m'intéresserai uniquement aux rois, aux reines et aux princesses. Nos sources nous permettent aussi d'écrire l'histoire d'en bas, selon la terminologie à la mode, ou qui était à la mode, parce que ces modes vont tellement vite qu'il est dangereux de faire allusion à la mode en matière d'historiographie. Je passerai donc maintenant au personnel des cuisines. Il s'agit exclusivement de femmes, réparties en différentes catégories en fonction du travail qu'elles effectuaient et la répartition des tâches était extrêmement précise. Parmi elles, on remarque la présence de deux femmes scribes qui sont séparées de la dizaine d'autres femmes scribes affectées au service des femmes du harem. Donc ce sont les scribes des cuisines. Or, on a retrouvé dans le palais des milliers de tablettes dites de repas du roi qui enregistrent les nombreuses denrées végétales utilisées pour les repas du souverain et de ses commensaux, céréales transformées en pain, gâteaux, soupes, bouillies, etc., mais aussi huile, miel ou encore sésame. Une analyse paléographique de ces tablettes avait permis d'y distinguer deux mains de scribes différentes en fonction de la forme de certains signes. Eh bien, désormais, nous connaissons le nom de ces scribes. Ces deux femmes s'appelaient Beltilamassi et Ishtar Shamshi, et Nello Ziegler a pu rattacher chacune d'elles au groupe de tablettes qu'elle a écrites. On aurait sans doute bien étonné ces femmes d'humbles conditions en leur disant que leur nom passerait à la postérité. En les nommant aujourd'hui, je leur donne la principale forme de survie à laquelle croyaient les anciens Mésopotamiens. Beltilamassi et Ishtar Shamshi, vous n'êtes pas les oubliés de l'histoire. Je poursuivrai par deux autres portraits. Le premier sera celui d'une simple puiseuse d'eau. Elle appartenait au groupe des femmes chargées d'approvisionner le harem en eau. Ce groupe est celui qui recevait le montant d'huile le plus faible, signe du peu de considération attachée à ces femmes. Dans la liste de rations, elles apparaissent soit avant les portières, soit entre les portières et les portiers, ce qui semble indiquer qu'elles avaient l'habitude de franchir la porte du harem. Dans la liste des quelques 20 puiseuses d'eau figure une certaine Nanna. Ce nom est rare et on le retrouve dans une lettre écrite par Zimrilim à son épouse Chiptou à propos d'une femme atteinte d'une maladie de peau. Je cite « J'ai entendu dire que Nanna souffrait du mal Simoum et que malgré cela, elle était en total rapport avec les servantes du palais et qu'elle contaminait de nombreuses femmes à son seul contact. Pour l'heure, donne des ordres stricts afin que dans la coupe où elle boit, personne ne boive. » Que sur le siège où elle s'assoit, personne ne s'asseye, et que sur le lit où elle couche, personne ne se couche, afin qu'elle ne contamine pas de nombreuses femmes par son seul contact. Ce simoum s'attrape facilement. Donc le roi ordonne à Chiptou de prendre des mesures d'isolement, d'autant plus drastiques que cette femme était en principe en contact avec beaucoup d'autres à l'intérieur du palais, et donc, on voit que la notion de contagion était déjà prise en compte à cette époque, même si, bien entendu, ces mécanismes précis étaient inconnus et pour longtemps encore. Cette lettre permet donc de préciser que les puiseuses d'eau avaient pour tâche d'apporter directement aux femmes du harem l'eau dont elles avaient besoin. On ne dit nulle part d'où elles puisaient l'eau. Il est peu vraisemblable qu'elles soient allées à l'extérieur du palais, d'autant qu'il n'est jamais question d'ânes qui les aideraient au transport de l'eau. Et on peut donc penser qu'elles se rendaient seulement au centre de la cour 131, mais on est là, on l'a vu, à l'extérieur du harem. Et nous savons en effet qu'existait là un grand réservoir, le bitume qui en calfatait les parois, ne laisse pas de doute sur la nature de cette construction qui doit correspondre au terme « igoum » des textes. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Second portrait, celui d'une musicienne nommée Bazatoum. Elle appartenait à la catégorie dite des petites musiciennes, terme qu'il ne faut pas comprendre en termes de hiérarchie, mais d'âge, donc plutôt les jeunes musiciennes. On voit, dans les premières années du règne de Zimrilim, le montant des rations de Bazatoum augmenter régulièrement. Mais Zimrilim ne choisit pas d'en faire une de ses concubines, comme il arrivait souvent. Il la donna en mariage à un de ses plus hauts fonctionnaires, Sammétar. Celui-ci avait déjà une épouse, mais les hommes de l'élite avaient souvent une deuxième épouse qui était placée à la tête de ce qu'on pourrait appeler leur résidence secondaire. C'est ainsi que Bazatoum, devenue épouse secondaire de Sammétar, vécut à la campagne, à Zurouban, c'était pas très loin de Marie, où Sammétar avait un important domaine. Malheureusement pour elle, son époux mourut quelques mois après le mariage et, selon la procédure de l'époque, le palais ordonna l'inspection, on dit en babylonien la pikitoum, de tous ses biens et on voit dans les listes dressées à cette occasion que les possessions de Bazatoum sont distinguées de celles du palais et de celles de son défunt mari. Les contacts de Bazatoum avec ses anciennes collègues n'avaient pas été rompus, puisqu'on voit qu'elle avait accepté de conserver des bijoux appartenant à une autre musicienne nommée Beltani, qui ne devait pas disposer d'endroits sûrs pour les garder. Après cette vue d'ensemble des femmes du palais de Marie au temps de Zimrilim, je voudrais m'attacher à deux personnalités particulièrement marquantes, la reine-mère Adoudouri et la reine Chiptou. On commencera par Adoudouri. Dans le corpus de la correspondance féminine réunie par Dossin dans ARM10, 11 lettres appartenaient à Adoudouri, qui était manifestement une personne très importante dans le royaume de Marie, mais les avis ont différé sur son identité. André Finet avait cru qu'elle était la dernière épouse de Zimrilim après la mort de Chiptou, ce qui n'a pas résisté à un examen approfondi et à la publication de nouvelles sources. Maurice Birot voyait en elle une superintendante du palais de Marie. C'est son sceau qui peut nous guider. Elle y apparaît, comme nous l'avons déjà vu, comme servante de Hadni Addou. Or, nous avons vu la semaine dernière que ce Radni Hadou était très vraisemblablement le père de Zimrilim, et donc on peut en déduire que Hadoudouri était sa mère. C'est ce que Jean-Marie Durand et moi-même avons proposé dans notre article de Marie IV en 1985, mais on n'a pas encore trouvé de texte qui décrive explicitement Hadoudouri comme la mère de Zimrilim. À mes yeux, la situation ne fait guère de doute. Où Hadoudouri habitait-elle? Dans la mesure où on a retrouvé dans le palais des lettres qui lui étaient adressées, personne ne s'était interrogé à ce sujet jusqu'à ce que Nele Ziegler étudie les listes de distribution de laine aux femmes vivant dans le palais qu'elle a publiées dans Florilegium Marianum IV. Or, Hadoudouri n'apparaît que dans la plus ancienne des listes de distribution de laine aux femmes du harem, un texte qui correspond encore au format des listes du temps de Yasmaradou et qui changea juste après. Par ailleurs, on possède un dossier de 137 tablettes qui enregistre des dépenses de moutons et qui date des trois premiers mois du règne de Zimrilim, donc avant sa première année de règne complète. Des ovins sont donnés à Hadoudouri à plusieurs occasions, et pendant cette période, Hadoudouri était manifestement chargé d'offrir des sacrifices au nom du roi absent. Un an plus tard, on a le sceau de Hadoudouri imprimé sur des documents de dépenses d'huile au dixième mois de l'année de Karat, c'est-à-dire l'an 1 de Zimrilim, mais ça ne signifie pas que Hadoudouri habitait encore dans le palais à cette date. Et de fait, on a plusieurs références à la maison d'Hadoudouri. Par exemple, à RM 21-112, qui mentionne 12 jarres d'huile de la maison d'Hadoudouri, scellées à son sceau, confiées à Nourili, en l'an 2 de Zimrilim. Il faut par ailleurs noter la distinction faite dans le texte de dépenses d'huile ARM 21-125 entre l'huile destinée aux lampes du palais et celle qui est destinée aux lampes de Hadoudouri, donc un texte qui date également de l'an 2 de Zimrilim et qui laisse penser que Hadoudouri, par conséquent, à ce moment-là, habitait à l'extérieur du palais. Et Jean-Marie Durand a rapproché la situation de ce qui se passait à Alep, où un peu plus tard, lorsque Hammurabi occupait le trône, la reine-mère Gachéra n'habitait pas dans le palais royal. Passons maintenant à l'analyse de la correspondance d'Hadoudouri. Elle comprend 26 lettres à répartir en deux groupes. Du côté de la correspondance active, on a 13 lettres de Hadoudouri qui sont adressées à Monseigneur, c'est-à-dire à Zimrilim, et puis on a également une lettre qu'elle adressa à l'intendant Mouganichoum. La correspondance passive comprend 9 lettres de Zimrilim, qui s'adresse à elle comme ton seigneur, et on a également 2 lettres dues à d'autres expéditeurs. Comment expliquer la présence de ces 11 lettres dans le palais ? En principe, les lettres adressées à une personne se trouvent en effet à l'endroit où celle-ci habite, et donc on pourrait penser que les lettres adressées à Hadoudouri lui ont été envoyées avant qu'elle ne quitte le palais, et nous allons regarder si cette hypothèse peut être confirmée. Nous commencerons par les lettres à contenu politique et religieux. Vous allez voir qu'on ne peut pas dissocier les deux aspects. Plusieurs lettres d'Hadoudouri à Zimrilim s'achèvent par des mises en garde. Son fils, en campagne militaire, doit prendre garde à lui-même. On lit ainsi « Monseigneur doit mettre tout son soin à protéger sa personne ». Ou encore « Dis à Monseigneur, ainsi parle Hadoudouri, la ville de Marie, les temples et le palais vont bien, quand rien le cœur de Monseigneur ne s'inquiète. Naguère, Monseigneur m'avait parlé en ces termes, je multiplie les expéditions, mais c'est en fonction des bons présages que j'obtiens. Eh bien, que Monseigneur multiplie les expéditions en fonction des bons présages qu'il obtient, mais qu'il ne soit pas négligent à se protéger. » Ce passage est très intéressant pour l'attitude des anciens vis-à-vis de la divination. Il ne s'agit pas de scepticisme, mais il faut bien comprendre, ça n'est pas parce que les présages sont bons qu'il faut être imprudent. votre voiture est assurée, ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Mutatis mutandis, il en allait de même. On avait l'assurance des dieux que si les choses se passaient normalement, il n'y aurait pas de problème, mais donc il ne faut pas prendre de risques inutiles. Et nous possédons une lettre de Zimrilim à sa mère qui est manifestement une réponse à une lettre de ce genre. « Dis à Doudouri, ainsi parle ton Seigneur, j'ai pris connaissance de ta tablette que tu m'as fait porter. À propos de ce que tu me dis, il ne faut pas que mon Seigneur soit négligent à se protéger. Je ne montre nulle négligence à me protéger, exactement selon ta lettre que tu m'as envoyée, je me trouve faire très attention. En outre, voilà que tu dois offrir les sacrifices pour la protection du palais, tiens-toi devant les dieux. En attendant mon arrivée, montre-toi très vigilante. » En outre, une nouvelle qui t'arrivera de n'importe où ou dont tu aurais ouï dire doit en urgence m'être ponctuellement transmise. Autre chose, je t'ai fait porter cette tablette le 8 courant du mois Kiskissoum. Le 12, je me transporterai de Douryardounlim à Marie. Il faut qu'à l'écoute de cette tablette, toute disposition soit prise concernant les sacrifices de Deritoum sans faute. Alors la fin de la lettre est très importante parce qu'elle permet une datation précise. En effet, il est ici question du retour de Zimrilim depuis le Haut-Rabour, après sa prise de Karat, et donc c'est une lettre qui a été écrite au mois 10 de l'année 1. Et c'est justement de ce moment que datent les textes administratifs scellés par Adoudouri et publiés dans FM3. On peut donc en conclure que Adoudouri résida dans le palais pendant le début du règne, jusqu'au moment où son fils acheva sa campagne contre Karat, à la fin de sa première année de règne complète, et la correspondance doit correspondre à ce laps de temps. D'autres lettres permettent de mieux apprécier son rôle religieux. Les lettres d'Adoudouri les plus célèbres sont en effet celles où elle transmet à Zimrilim le contenu de rêves ou de prophéties. En voici un premier exemple. Idinili, l'administrateur Shangoum du dieu Itourmer, a eu un rêve auspicieux. Il a dit « Dans mon rêve, la déesse Belet-Biri était debout et m'a parlé ainsi. La royauté est son moule à briques et la dynastie sa muraille. Pourquoi monte-t-il sans cesse à la tour d'assaut? Qu'il veille à sa propre sauvegarde. À présent, Monseigneur ne doit pas négliger de veiller à lui-même. » Donc on voit que la troisième personne dont il est question dans les propos de la déesse Belet-Biri, c'est de manière implicite le roi Zimrilim. Le contexte est manifestement celui du siège d'une ville, celui de Karat vraisemblablement, et la reine-mère craint que le roi participe au combat au premier rang. Lorsque on essayait de détruire les murailles, l'enceinte d'une ville, eh bien, il y avait ces tours d'assaut, et donc, évidemment, se trouver dans une tour d'assaut, c'était quelque chose de très risqué. Et donc, Adoudouri rapporte le rêve d'un des plus hauts dignitaires religieux de la capitale, dans lequel la déesse Belet-Biri dissuade le roi d'une telle conduite. Une autre lettre est une des plus célèbres prophéties du Corpus Mariot. « Dis à Monseigneur, ainsi parle Adoudouri ta servante, depuis le rétablissement de ta famille, jamais je n'avais vu un tel rêve. Les signes que j'avais vus auparavant étaient tels. Dans mon rêve, j'entrais au temple de Belet-Ekalim. » C'est un temple qui est situé à l'intérieur du palais. « Belet-Ekalim ne siégeait plus, et les statues qui sont devant elle n'y étaient plus. Alors, voyant cela, je me mis à pleurer. » Ce rêve de moi était de la première veille. À nouveau, Dada, le grand prêtre Shangoum d'Ishtar Bisréen, se tenait à la porte de Belet-Ekalim et une voix désagréable ne cessait de crier ainsi. « Reviens-moi, Dagan ! Reviens-moi, Dagan !» Voilà ce qu'à plusieurs reprises, elle criait. Autre chose, une extatique s'est dressée dans le temple d'Anunitum, disant « Ô Zimrilim, ne pars pas en campagne, reste à Marie, alors moi je ne cesserai de répondre. » Et la lettre de se conclure par l'habituel « Monseigneur ne doit pas montrer de négligence pour sa protection personnelle. » C'est une lettre qui est extrêmement riche, par endroits difficile à comprendre, et donc j'ai pris des options dans cette traduction qui ne sont pas celles de tout le monde, mais l'essentiel, c'est qu'elle montre clairement à quel point la reine était angoissée à l'idée qu'il puisse arriver malheur à son fils parti guerroyer loin de Marie, et elle rapporte donc deux rêves funestes qu'elle a eus et qui sont corroborés par la prophétie proférée par une femme lors d'une extase dans le temple de la déesse Anunnitum. Passons à des choses plus matérielles. Les activités économiques d'Adoudouri, elles ont fait l'objet d'une synthèse de Nele Ziegler, et faute de temps, je ne pourrai pas développer beaucoup ce point. Je dirais seulement que le rôle d'Adoudouri dans la gestion des stocks du palais, qui est manifeste dans sa correspondance, est confirmé par un certain nombre de documents administratifs. Mais je voudrais vous parler d'une lettre un peu plus extraordinaire, parce que elle nous montre un aspect inattendu du palais. « Dis à Adoudouri, ainsi parle ton seigneur, je ne cesse d'entendre parler des chevaux blancs qui proviennent de Katna. Ils sont de bonne qualité. À présent, le jour où tu écouteras ma présente tablette, dans la cour du bâtiment aux peintures, à la porte des gardes, afin qu'il y ait de l'ombre pour protéger contre la chaleur du jour, que l'on fasse un toit, que l'on jonche des roseaux, que ces chevaux y gîtent, qu'on leur apporte du grain. » En outre, ne montre pas de négligence envers mes directives. Le toit pour ces chevaux doit être fait en face de mes appartements. Que des nouvelles de toi, de Marie et des temples soient continues. Alors, à nos yeux, installer des chevaux juste devant le temple d'Ishtar, c'est une idée assez curieuse. Mais il faut prendre en compte la rareté que constituaient les chevaux à une époque qui, en fait, d'équidés, connaissait essentiellement des ânes et des onagres. Ces chevaux blancs syriens doivent être comparés au pur sang arabe plus tardif qui excitait également la convoitise des puissants. On voit donc que la reine-mère devait faire installer une sorte de petite écurie dans la cour 131 et l'indication très précise de cette lettre recouvre parfaitement la reconstitution de Jean Margueron et de Béatrice Muller, qui, sur des bases purement archéologiques et architecturales et picturales, avaient situé les appartements royaux à l'étage, au-dessus des réserves qui sont situées à l'arrière du temple d'Ishtar. Des fragments de peinture qui ornaient les murs de ces appartements ont été retrouvés dans les déblais des salles du rez-de-chaussée, suite à l'effondrement du palais, notamment dans les salles 219 et 220, et Béatrice Muller en a proposé une restitution. Jean-Marie Durand a récemment proposé, dans ARM 33, que cette lettre ait été rédigée avant même que Zimri-Lim soit entré dans Marie et que ses chevaux soient en réalité les mêmes que ceux qui avaient été envoyés en cadeau à Yasmaradou. Mais comme il l'a signalé lui-même, cela supposerait que Zimri-Lim ait déjà eu une très bonne connaissance du palais de Marie. Et j'avoue que cette proposition fait problème. Comment Zimri-Lim pourrait-il dire « mes appartements » s'il n'en avait pas déjà pris possession ? Il me semble donc beaucoup plus vraisemblable que la lettre date du moment où, après s'être installé à Marie, Zimri-Lim est reparti en campagne, cette fois en direction du nord, vers Karat, vraisemblablement. Adoudouri avait aussi des activités économiques propres. On a un récapitulatif de dettes à recouvrer qui date de l'an 8 de Zimri-Lim et qui mentionne plusieurs prêts de grains à intérêt effectués depuis l'an 4 de Zimri-Lim et qui n'avaient pas encore été remboursés. Nous savons de manière approximative quand mourut Adoudouri. En effet, un texte administratif enregistre la dépense de 4 cycles d'argent pour les mêmes moums du tombeau d'Adoudouri. On ne sait pas exactement ce que sont des mêmes moums, mais le même objet en argent se retrouve pour une autre offrande funéraire. Or, ce texte date du premier jour du deuxième mois de l'année 6 de Zimri-Lim, et l'on sait par ailleurs qu'il y eut une offrande pour un repas funéraire, en babylonien kispoum, offert à Adoudouri, grâce à un texte récapitulatif qui date du troisième mois de la même année. C'est le seul que nous possédions, et il est très possible qu'il s'agisse du premier qui fut organisé. Adoudouri mourut donc au début de l'année 6 de Zimrilim, et donc la fin de son existence correspond aux cinq premières années du règne de son fils. Et c'est à partir de la mort d'Adoudouri que le rôle de Shiptou dans le palais prit de l'importance. Shiptou est une des figures les mieux connues de Marie. Son identité a été établie depuis longtemps. C'est en 1948 que Georges Dessin définit Shiptou comme étant la reine à l'époque de Zimrilim. Dans cette étude, Dessin portait une attention particulière au sceau de Shiptou. Sa légende montrait en effet qu'elle était fille du roi d'Alep Yarimlim et épouse de Zimrilim. C'est donc un sceau qui a été gravé après son mariage dans un atelier de Marie, selon toute vraisemblance. Depuis 1948, on en a appris davantage sur le sceau de Shiptou. Nous n'en possédons que des empreintes et pas la matrice, mais on peut quand même s'en faire une bonne idée grâce à un texte datant de l'année 5 de Zimrilim qui nous dit que la matrice était en lapis lazuli et que le sceau a été pourvu d'une monture en or. Donc c'était le summum du luxe à côté d'autres matrices en cristal de roche. C'était les deux pierres les plus précieuses qui étaient utilisées alors. Shiptou était donc originaire du royaume d'Alep, qui portait le nom de Yamrad, qui est de mieux en mieux connu, quoique sa capitale n'ait pas encore livré de tablettes cunéiformes. C'est la ville d'Alalar, également connue sous le nom d'Alartum, qui nous permet de connaître ce royaume de l'intérieur, et une synthèse due à Jacob Lauinger a fait le point sur son organisation territoriale. On connaît de mieux en mieux la famille royale d'Alep. La dynastie a été fondée par Soumouépour, qui eut comme successeur Yarimlim. Celui-ci a épousé une femme nommée Gachéra, qui lui donna notamment deux enfants, Amurabi, qui devait succéder à son père sur le trône, donc rien à voir avec Amurabi de Babylone, c'est un homonyme, et puis une fille nommée Shiptou et qui devint reine de Marie. Je ne vais pas maintenant vous parler en détail du mariage de Shiptou, nous verrons cela lorsque nous dresserons le portrait d'Askoudoum et de Rishiya, deux dignitaires qui furent chargés de négocier l'affaire et de conclure le mariage par procuration à Alep. Au terme d'un long voyage, Shiptou arriva à Marie le sixième mois de l'an 2 de Zimrilim. Et dans un premier temps, Damruratsi eut la préséance, sa ration mensuelle de laine passa de 10 mines à 15 mines, tandis que Shiptou n'avait droit qu'à 10 mines. Il est fort possible que cette prééminence venait du fait que Damruratsi avait déjà donné un héritier à Zimrilim et de manière significative, ce garçon avait reçu le nom de Yagidlim, c'est-à-dire l'ancêtre de la dynastie. Mais en l'an 5, Shiptou passa avant Damruratsi dans les listes et le nombre de ses servantes dépassa alors celui des servantes de Damruratsi. Donc il y a une sorte de concurrence entre les deux reines. Où Shiptou résidait-elle? On possède à ce sujet une lettre du devin Askoudoum qui cite les propos du roi d'Alep Yarimlim à propos de l'installation de sa fille Shiptou avant qu'elle ne quitte Alep pour se rendre dans le palais de Zimrilim. Askoudoum déclare « Yarimlim m'a entrepris en ces termes. J'ai souvent entendu dire que les dieux sont puissants dans le palais de Marie. Où entreront donc les affaires de ma fille ?» Askoudoum, j'ai répondu « La maison de ta fille est excellente. » Il a dit « Que les affaires de ma fille soient donc déposées dans sa demeure, mais que ma fille réside chez son époux et que, 5 ou 6 jours, elle quitte le palais et qu'elle s'occupe de sa demeure. Maintenant, il faut que Monseigneur donne des instructions et qu'il sélectionne une demeure afin qu'on la prépare pour sa fille, de telle sorte que ses serviteurs, c'est-à-dire ceux de Yarimlim, qui feront route avec moi, voient cette demeure et fassent rapport à leur seigneur. » Pour l'heure, je viens d'écrire à Monseigneur ce que j'ai entendu de la bouche de Yarimlim, que Monseigneur réfléchisse afin qu'on s'occupe de la demeure qu'on aura déterminée pour cette jeune fille. Dès la publication de cette lettre, il a paru clair que le souci de Yarimlim serait que sa fille ne puisse habiter le palais en raison de tabous religieux. La mention du fait que Chiptou puisse habiter le palais mais le quitter 5 ou 6 jours a été interprétée par Jean-Marie Durand comme une allusion à la période de menstruation comprise dans les civilisations orientales anciennes comme un moment d'impureté. Je le cite. Comment dès lors ne pas voir dans ce passage une preuve que l'espace du palais de Marie, étant particulièrement sous l'emprise du sacré, l'impureté mensuelle, entre guillemets, de la reine, l'a contraint d'évacuer le palais royal. Un parallèle s'impose dès lors avec les interdits rituels du Lévitique. La femme qui a ses règles ne peut monter au temple pendant une semaine, Lévitique 15-19. À partir du moment où temple et palais se compénètrent, la reine doit décamper. Une telle histoire ne peut se comprendre si les dieux ne sont pas avant tout chez eux, dans le palais de Marie, et vous avez vu que les listes de rations commencent par des rations qui sont données aux divinités, et il y a à l'intérieur du palais la chapelle d'Eshtar, la chapelle de Belet et Kalim, donc en effet, le palais est un endroit qui a des aspects sacrés. L'interprétation de Jean-Marie Durand a été suivie par Jack Sasson et les objections de Wolfgang Heimpel ne doivent pas être retenues. Il disait « Je ne peux pas croire que Yarimlim ait parlé de ça avec Askoudoum ». Ça, c'est une réaction d'occidental, je dirais plutôt du 19e que du 20e siècle. Mais en réalité, vous voyez bien que dans la lettre, Askoudoum éprouve une certaine gêne et il précise bien à la fin « Je viens d'écrire à Monseigneur ce que j'ai entendu de la bouche de Yarimlim ». Donc il souligne le fait qu'il retranscrit verbatim les propos du roi d'Alep. Alors, où était cette demeure de Chiptou à l'extérieur du palais dans les premières années de sa vie à Marie? Nous ne savons pas, mais nous voyons que après la mort d'Askoudoum, qui se passe en l'an 8 de Zimrilim, Chiptou a habité dans le petit palais oriental découvert au chantier A. On reparlera de ce bâtiment. Et on a retrouvé là des textes de repas de la reine qui datent de l'année 11 de Zimrilim et qui portent des empreintes du sceau de Chiptou et mentionnent également ses deux enfants, Khadniadou et Shubultoum, qui étaient peut-être, mais ça n'est pas sûr, des jumeaux. Passons à la correspondance de Chiptou. 24 lettres adressées à Monseigneur, plus une à Darish Libour, dont on parlera la semaine prochaine, et puis 35 lettres reçues par Chiptou, 20 du roi et 10 qui sont adressées à Marraine, mais d'après leur contenu, qui avait Chiptou comme destinataire. Ces lettres montrent l'importance considérable qui fut celle de Chiptou dans la vie du palais et même plus généralement de la capitale. C'est ce que montrent notamment les nombreuses lettres qu'elle écrivit à Zimrilim pendant ses absences, et elle commence toujours en disant « le palais va bien », ou encore « les temples et le palais vont bien », ou encore « les temples, les dieux, le palais et les ateliers vont bien ». Alors, les ateliers nous conduisent à envisager les activités économiques et administratives de Chiptou. Ses activités privées sont très mal documentées, on connaît seulement un prêt d'argent qu'elle accorda une fois, mais sa correspondance montre le rôle crucial qu'elle joua dans l'économie du palais. Un exemple avec cette lettre de Zimrilim, « J'entends dire partout que c'est le moment de moissonner l'ail. Fais observer à Sid qui est pour qu'il doit rassembler l'ail. Je réceptionnerai de lui 10 ougars d'ail comme condiment. Si l'ail est bien sec, reçois-le et qu'on le verse dans des jarres de 30 litres chaque, puis scelle-le avec ton seau. S'il n'en est pas ainsi et que l'ail n'est pas sec, qu'on le sèche sur le toit du paparoum, mais que l'accès au toit soit scellé de ton seau. » Et donc, on voit ici encore l'importance cruciale du seau de Chiptou qui servait soit à clore des jarres, de façon que le contenu ne soit pas pillé, soit à clore des espaces, puisque il y avait tout un système de clôture des portes avec des scellés. La présence de Chiptou sur Damrourazi est attestée par plusieurs documents qui montrent que les contributions effectuées par Chiptou étaient plus importantes que celles de la reine Damrourazi. On voit aussi qu'elle participait aux dépenses pour le culte. Par exemple, ce texte que Lionel Marty doit publier, « Un bœuf de seconde qualité et un mouton engraissé que Chiptou a sacrifié dans le temple de la déesse Belet et Kalim ». Chiptou n'était pas seulement impliquée dans l'économie palatiale, elle tenait également un rôle clé dans l'organisation du harem. C'est ce que montre cette lettre de Zimrilim qui date de la fin de son règne. « Voilà que je t'envoie des femmes qui doivent devenir tisseuses. Parmi elles, il y a des prêtresses Ugbaptoum. Identifie les prêtresses et remets-les au quartier des tisseuses. Parmi ces tisseuses-ci et ces tisseuses-là, choisis-en 30 ou plus, si possible, excellentes, qui n'aient pas le moindre défaut, depuis l'ongle du pied jusqu'aux cheveux de la tête, et remets-les à Warad Ilichou pour qu'ils leur apprennent l'orchestre soubaréen. En outre, il faudra que leurs appartements soient installés en un lieu différent. Veille bien à leur ration alimentaire, que leur beauté ne s'altère pas. En outre, lorsque tu feras un choix parmi les tisseuses, il faut que ce soit en présence de Warad Ilichou. Enfin, donne des instructions à Moukanichoum afin que la beauté du reste des tisseuses que tu lui confieras ne s'altère pas. » Donc on voit que Zimrilim est intéressé de près par le physique de toutes ces femmes, qu'elles restent simples tisseuses ou qu'elles soient versées au nombre des musiciennes. Et finalement, Zimrilim a changé d'avis, ne fait pas confiance à sa femme, et donc il termine sa lettre en disant « En ce qui concerne le choix de jeunes filles destinées à l'orchestre sur le butin que j'avais fait mener, objet d'une lettre antérieure de moi, celle que nous venons de lire, en fait, il ne faut pas en choisir pour l'orchestre sur ce butin. Ces jeunes filles doivent être mises au tissage. Je m'attends encore à faire du butin, c'est moi-même qui choisirai dans ce butin à venir les jeunes filles pour l'orchestre et les ferai amener. » Par ailleurs, Chiptou ne semble pas avoir participé à des déplacements du roi. Par exemple, lorsque Zimrilim se dirigea vers Ougarit, eh bien, elle n'accompagnera le souverain que jusqu'à Sagaratoum, donc pas très loin de Marie. Et à son retour, elle vint à sa rencontre dans la même ville. Et on est un peu étonné de cela parce que Zimrilim, en route vers Ougarit, a rencontré Yarimlim et Gachéra, les parents de Chiptou. Il était à Alep, et donc on aurait pu penser que Chiptou aurait désiré retourner voir ses parents. La raison de cette séparation n'est donnée par aucun texte, mais il se peut que le roi ait désiré que Chiptou reste dans le palais pour tout surveiller en son absence, ce qui, d'une certaine façon, serait une grande marque de confiance. On ne peut terminer ce portrait de Chiptou sans signaler quelques particularismes religieux qui semblent liés à son origine alépine. On relève ainsi des offrandes à la lance divinisée de la déesse Ishtar de Touba, une ville qui a été localisée à Oum al-Marra, où des fouilles ont eu lieu il y a quelques années, donc une ville du royaume d'Alep, d'où Chiptou était originaire. Et ce texte enregistre, ovin ou bovin, le début est cassé, à Por, lorsque la reine a fait le sacrifice de la lance d'Ishtar de Touba dans la résidence Sakanoum, livraison à Choubnalou, et le texte date du mois 6 de l'année 13, donc 6 mois avant la fin du règne. On voit aussi Chiptou recourir à des techniques divinatoires inhabituelles, qui pourraient être également originaires du Yamhad, notamment lorsqu'elle fait boire des individus, apparemment dans le but d'en obtenir des prophéties sous l'emprise de l'alcool. À propos de l'expédition que Monseigneur va entreprendre, j'ai fait boire les cygnes, mâles et femelles, et j'ai posé mes questions. L'augure est tout à fait excellent pour Monseigneur. J'ai interrogé dans les mêmes conditions pour Ishmedagan, l'ennemi de Zimrilim à ce moment-là, mâle et femelle. Son augure n'est pas bon et son affaire est placée sous le pied de Monseigneur. Donc, j'interromps la citation. Ici, c'est la même technique qu'en matière divinatoire. On interroge d'une façon en espérant une réponse positive et ensuite, on repose la même question dans l'autre sens, donc cette fois concernant non pas le roi mais son ennemi, et on espère évidemment une réponse négative. C'est bon pour le roi dans un premier temps, c'est mauvais pour son ennemi dans un deuxième temps. Je reprends la citation. Voici ce qu'ils ont dit. Monseigneur a levé la canne. En levant la canne contre Ishmedagan, il a dit « Je te vaincrai à la canne. Oppose-toi tant que tu veux, je te vaincrai à la lutte. » J'ai dit alors « Monseigneur participera donc au combat armé ?» Ils ont répondu « On ne livrera pas de combat. Dès l'abord, ses alliés se débanderont. On coupera la tête d'Ishmedagan et on la placera sous le pied de Monseigneur en disant « L'armée d'Ishmedagan était nombreuse, mais malgré son nombre, ses alliés se sont débandés. » Il ne faut pas que Monseigneur dise « Elle les a fait parler par astuce. » On ne les fait pas parler. Certains parlent, d'autres résistent. Et donc, on voit que Chiptou anticipe un éventuel scepticisme de Zimrilim devant ses présages de victoire et elle explique qu'ils ont été obtenus sans pression, selon la technique habituelle donc d'examen et de contre-examen. On ajoutera tout de même que ces prophéties ne se sont pas réalisées puisque Zimrilim est mort alors que Ishmedagan lui a survécu. Donc, cette technique, je ne vous la recommande pas. Cette série de portraits vous aura montré la place très importante qu'occupaient les femmes de l'élite à cette époque. Selon la coutume syrienne, la reine-mère occupait le premier rang. Les épouses étaient subordonnées à leur mari, certes, mais en l'absence de celui-ci, c'était elle qui était le plus souvent responsable de la gestion de la maisonnée et donc, pour les reines, de la bonne marche du palais. Or, le roi s'absentait souvent, en particulier pour les campagnes militaires, pratiquement tous les ans et qui duraient plusieurs mois, et c'est ce qui explique l'abondance de notre documentation épistolaire, puisque le souverain devait être tenu au courant des moindres événements, y compris la maladie d'une simple puiseuse d'eau. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à l'entourage masculin du roi, en commençant par trois personnages clés, son secrétaire, son barbier et son échanson. Et je vous remercie de votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.